Merci, I am called Madame Tabenya Augusta Ari. I am the head of the Division for Budget Control and Ministry of Finance, Department of Budget. It is always a pleasure for me every January to stand in front of very wonderful people to present the innovations on the circular for the execution of the budget. As I'm speaking, this activity is going out in all the other 10 financial regions because it's an annual rendezvous for us to come and discuss, share experiences, and discuss on our problems and chat a way forward to help us better execute the state budget. Because this is imperative for us to understand the guiding principles so as not to do the wrong things in our offices, because we might stay in our offices and do the wrong thing, believing that we are doing the right thing. So it's important for us to understand the guiding principles and make sure that we apply them in our daily duties so that we can be able to speak out in with all honor at the end of the year that we have attained our objective. Donc, le bilan, les choses que je vais faire ce matin, ça va faire pour le bilan de l'élection du budget 2021 et les innovations de la législature 2022. Parce que c'est important qu'on discute d'abord sur les difficultés rencontrées pendant l'exécution du budget 2021 avant de passer maintenant aux innovations. C'est un exposé qui est divisé à 4 grandes parties avec une introduction et une conclusion. Comme on a bien suivi le discours de M. le ministre des Finances, le 16 décembre, M. le président de la République a promulgué la loi des finances pour l'année 2022. Et le 30 décembre, M. le ministre des Finances a signé la circulaire sur l'exécution du budget, du contrôle et le suivi de l'exécution du budget pour l'année 2022. Cet document, c'est un document d'interprétation des différentes politiques budgétaires qui ont guidé l'élaboration du budget 2022. Ça donne les questionnements sur les modalités et comment on doit exécuter le budget sans problème. Parce que le respect de la discipline budgétaire est capital pour la réussite de l'exécution de tout budget public. Donc c'est important. Et au plan technique, le 31 décembre, le budget a été mise en œuvre dans le plateforme promise. Donc, tout a été mis en œuvre pour que le budget soit exécuté à partir du 1er janvier 2022. Donc, tous les ordinateurs peuvent exécuter leur budget s'ils veulent à partir du 1er janvier 2022. Ce n'est pas parce qu'on a essayé de lancer le budget maintenant qu'on va penser que le budget n'est pas exécuté. Le budget est déjà exécuté au 1er janvier 2022. Et ce rendez-vous, terminé sur le lancement, c'est un rendez-vous que nous on veut seulement partager avec vous et permettre de renforcer vos capacités sur certaines choses, sur certains points d'ombre, parce que c'est plus facile de discuter quand nous sommes face à face que de rester ou discuter par le téléphone à partir de nos bureaux. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est pour faire le point sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures de politique budgétaire édictées dans le cadre de l'exécution du budget 2021, notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées. Et un deuxième objectif, c'est pour présenter aux différents acteurs de la chaîne budgétaire les principales innovations de la circulaire du ministre des Finances pour une exécution optimale du budget public pour au titre de l'exercice 2022. Maintenant, ce qui concerne le bilan de l'exécution du budget 2021, ce qui concerne les difficultés, le premier difficulté qu'on a constaté, c'est le non-respect de l'annualité budgétaire. Vous savez que le budget est resté annuel. Même si on a le projet pluriannuel, le budget s'exécute pendant un an. Donc, on doit constater l'incapacité. On a l'incapacité à faire exécuter le budget, de le clôturer et d'en faire le reporting pendant les délais légaux. Parce qu'on constate que pendant la fin, quand on a en fait de faire des arrêts d'engagement et des arrêts des ordonnancements, il y a un fort flux de dépenses qui arrive et souvent c'est les dépenses qui portent, c'est les dossiers qui portent sur les projets non achevés. La conséquence, c'est qu'on a tendance à exécuter plusieurs budgets pendant cette année, parce que les dépenses de 2022, de 2020 et les dépenses de 2021 vont se retrouver en 2022. Et ça crée le problème de suivi et c'est discuté de rendre compte dans un contexte comme ça. Et donc, en deuxième position, c'est l'instabilité du système des marchés publics. Vous savez, tous ces jours sur le marché public. Si on n'arrive pas à maîtriser les procédures de passation des marchés, ça va créer, dès qu'il y a la défaillance dans la procédure de contractualisation, ça va enchaîner tout au long de l'année. Parce que les projets vont s'attribuer en retard et il n'y aura pas le prestataire n'aura pas le temps matériel d'exécuter le projet et de faire ordonnancer ses dépenses avant au plus tard le 31 décembre. Et on a constaté aussi l'entrée dans l'exécution des marchés publics. Parfois, quand on a déjà attribué le marché à temps, on constate que c'est là le prestataire, peut-être il n'a pas une capacité financière suffisante, il commence maintenant à chercher le financement et ça crée l'entrée dans l'exécution. Et la personne de fonctionnement des marchés mal exécutés, parce qu'on a attribué le marché au prestataire qui n'ont pas la capacité à exécuter les marchés d'une certaine qualité. Donc ça, tout ça là, ça pose des problèmes de l'exécution et on doit changer et faire les choses bien. Le non-respect de la discipline budgétaire, recours excessif aux procédures dérogatoires, récurrent des avances de trésorerie, le non-respect des budgets votés et la problématique de la sauvegarde des crédits, notamment en zone déconcentrée. L'annexe sur la circulaire sur l'exécution du budget précise les procédures qu'on doit respecter pendant l'exécution de tout type de dépenses. Mais on ne veut pas respecter ces procédures. On a toujours tendance à vouloir contourner les procédures pour avoir l'argent en main et maintenant procéder à faire ce qu'on doit faire. On doit respecter les procédures parce que la procédure, c'est ça qui nous permet d'aller vite et faire des choses bien et rendre compte sans problème. Maintenant, à la fin de l'année, certains projets ne sont même pas exécutés ou t'as exécuté à un certain niveau. Mais on a tendance à sauvegarder les crédits, surtout en zone déconcentrée. C'est là où beaucoup de projets s'exécutent en zone déconcentrée. En fin d'année, avec la complicité des... Parce que ce n'est pas seulement les prestataires, ce n'est pas l'ordonnateur. Il y a aussi les responsables du ministère des Finances qui travaillent au niveau régional et au niveau départemental, qui sauvegardent les crédits, fait comme si le projet a été exécuté, ce projet a été exécuté à 100%, alors que le projet n'a pas été exécuté à 100%. Donc, ils vont faire comme si ça, tout s'est bien passé. Et maintenant, le projet, une fois que c'est fait, le prestataire croise le bois, il commence à suivre le dossier de paiement. Et quand on perd, c'est un projet abandonné. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on doit éviter. Si on doit faire des choses bien. Et difficile mise en œuvre de certaines procédures. On a eu énormément de problèmes pour faire les procédures de compte d'affectation spéciale. Les ressources censurées pour changer les ressources au CTD. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'entendre parce que c'est difficile pour qu'on se comprenne entre nous qui doit changer les crédits et les élus locaux. Parce qu'ils pensent que nous, on ne veut pas transférer les crédits alors qu'on a établi une procédure. On transfère les crédits budgétaires, ce n'est pas la trésorerie. Quand on dit que les élus locaux passent le marché doit être exécuté et maintenant le marché remonte pour le paiement. Donc, le transfert des crédits, ce n'est pas les crédits, la trésorerie, c'est plus les crédits budgétaires pour qu'on puisse passer le marché. Et les dépositions des recettes non fiscales, parce qu'on n'a pas bien défini les procédures. Et maintenant, les registres des recettes qui sont là, ils se comportent comme si c'est leurs recettes propres. Ils ne reversent pas les recettes découvertes auprès des postes comptables assignataires. Il y a aussi le faible remonté de l'information budgétaire. On a constaté le cloisonnement entre l'échelon central et l'échelon local, ce qui ne facilite pas une circulation fluide de l'information budgétaire. On doit remonter l'information. On a le problème parce que tous les crédits transférés au CTD, il n'y a pas l'information. Certains remontent l'information, mais d'autres ne remontent pas. Donc je ne dis pas que tous les élus locaux ne remontent pas l'information, c'est certain. C'est important parce que c'est un État. Chacun fait son travail dans son domaine, mais on a dit de servir le même État. On doit partager l'information parce que nous, au niveau stratégique, on doit rendre compte. On doit rendre compte aux parlementaires qui ont autorisé ce budget. par Adeco de manière fidèle pour montrer ce qu'on avait avec les autorisations qu'ils ont autorisées en début de l'année. Et eux aussi, l'insuffisante collaboration avec certains exécutifs, les exécutifs régionaux et municipaux que je viens d'expliquer. Maintenant, non-professionnalisation des métiers budgétaires. On constate qu'on désigne n'importe qui pour faire le métier, pour être chef de service du marché, pour faire des choses qui concernent le budget. Et aussi une fixation de ceux qui n'ont pas de métier dans le métier budgétaire. Vous allez voir quelqu'un qui n'aime même pas le budget, qui n'aime même pas, qui ne maîtrise pas le métier budgétaire, mais c'est lui qui va nous dire ce que nous, les budgétaires, on doit faire pour faire passer ces dépenses. Et ça pose des problèmes, et ça crée des conflits, et c'est comme ça que les problèmes persistent, et on n'arrive pas à trouver la solution. Vraiment, le code de transport a dit que c'est cassé à l'image du code est clair, qu'on doit désigner quelqu'un en tenant compte de ses compétences techniques, aptitudes professionnelles, et qu'on est sûr qu'il peut garantir la déontologie de la chose. Parce que si on met quelqu'un qui est de mauvais caractère, qui tous les informations budgétaires se diffusent dans les bars à côté, ces gens, les personnes n'est pas bon pour occuper des postes de ces gens parce que l'information de l'État, c'est une information qui appartient à l'État, ce n'est pas une information qu'on doit discuter dans les réseaux sociaux ou dans les bars à côté. Maintenant, le quatrième partie, c'est présentation du budget 2022. Après avoir discuté, il faut qu'on entre maintenant en 2022. Le budget 2022 va s'exécuter dans un contexte difficile parce que nous tous on connaît le contexte qu'on vit. Nous sommes tous les Camerounais, on connaît ce qui se passe. Le premier contexte de l'exécution du budget 2021-2022, c'est qu'on a aligné tous les programmes maintenant avec le SND 30, qui est la stratégie de développement 2020-2030. Tous les programmes sont alignés. Et on va aussi poursuivre le plan de riposte contre le coronavirus. Vous savez que le corona n'est pas encore fini. On a porté nos masques, donc le corona existe. Donc on va poursuivre la stratégie de riposte et aussi de coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. On doit aussi poursuivre la poursuite de la politique d'imposition. Les domaines pour cette année seront édifiés dans les exposés qui vont venir après mon exposé. Et on doit aussi assurer l'implémentation des plans de relance économique post-COVID. Parce qu'en même temps qu'on est en train de lutter contre la pandémie, on doit aussi assurer qu'on a pas l'économie tombe, on doit la relance économique malgré la COVID. Donc, on doit adopter les stratégies qui vont nous permettre de rester en croissance en même temps que lutter contre la pandémie. Et la quatrième position, c'est la lutte contre les menaces sécuritaires multiformes et la mise en œuvre progressive de la couverture universelle santé. Nous sommes toujours en guerre. Nous, on a des problèmes. Nous, nord-est, sud-ouest et l'extrême nord. Il y a des problèmes de sécurité qui menacent la cohésion sociale. Donc, c'est important qu'on veille pour assurer l'intégrité de notre pays. Et la poursuite de la reconstruction des régions affectées par les crises sécuritaires nord-ouest, sud-ouest et l'extrême nord. Ces trois régions sont détruites et l'État a adopté un programme de reconstruction. Ce programme ne va pas s'arrêter. Malgré que la guerre persiste, il y a l'échauffement des pas et d'autres dans certaines régions, mais la reconstruction va se poursuivre. Parce que l'État n'est pas baisser les bras pour attendre que la guerre va finir avant les faits. On doit commencer à reconstruire pour montrer que nous sommes un seul État et rien ne peut pas nous diviser. Et la sixième position, c'est le renforcement de la cohésion sociale et le processus de décentralisation à travers le fracture des régions. Les régions ont été plus opérationnelles en 2021. Cette processus va se poursuivre en envoyant beaucoup de compétences qui vont se déployer au niveau régional pour que la décentralisation prenne effet. Et en septième position, c'est le maintien d'un veille sécuritaire sur tout l'étendue du territoire. On doit assurer l'intégrité stratégique de notre pays. On ne doit pas laisser l'ennemi. On ne peut pas dire qu'il y a la guerre. Il y a les problèmes à l'extrême nord, nord-ouest, sud-ouest. on baisse les bras, on focalise seulement sur ces trois régions, l'ennemi va toujours passer par l'est ou par le nord ou par d'autres régions pour nous attaquer. Donc c'est important de maintenir ces belles sécurités pour assurer l'intégrité stratégique de notre pays. Le B, c'est la nouveauté du budget 2022. Vous savez que la réforme des finances publiques est en cours et à chaque fois, on essaie de remarquer un pas vers la réforme. Le budget 2022 aussi a été élaboré dans un contexte de la réforme qu'on a constaté un changement de la référentielle comptable avec la mise en œuvre de comptabilité patrimoniale de l'État. La comptabilité patrimoniale va entrer en vigueur à partir de ça, c'est déjà en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Et l'arrimage des comptes budgétaires au cadre de la présentation de la nomenclature budgétaire. Donc maintenant, le budget a été élaboré avec la nomenclature budgétaire 2019. Jusqu'en décembre 2021, on utilisait la nomenclature budgétaire de 2003. Donc maintenant, on a basculé à la réforme en ce qui concerne la nomenclature budgétaire. Donc le budget 2021 a été préparé avec la nomenclature budgétaire 2019. Et on a aussi marqué un saut par l'introduction de la budgétisation sensible aux gens. Le budget du Cameroun, de l'État du Cameroun maintenant, est gens sensible. Donc vous pouvez remarquer les aspects gens dans le budget, ce qui est un pouce qui n'est pas le cas auparavant. Et l'alignement des programmes budgétaires à SNDT que j'avais dit tantôt. Maintenant, présentation du budget global, le budget de l'État. Le budget de l'État, le total budget de l'État, c'est 5 752,4 milliards. Et comme le budget de l'État est le budget général et les comptes spéciaux, le budget général, c'est 5 599,7 milliards. Alors que les comptes d'affectation spéciale, c'est 152,7 milliards. En ce qui concerne la décentralisation, c'est 242,2 milliards. Les secteurs sociaux ont pris 948,7 milliards. La sécurité, vous voyez, ça coûte cher pour l'État parce que c'est moins cher pour rester dans la paix que de rester dans la guerre. La sécurité prend 365,5 milliards. Et casse COVID, c'est 100 milliards. Maintenant, le budget de la région du Nord. Le budget de la région du Nord, c'est global, c'est 16,85 milliards. Budget d'investissement 7 milliards 272 milliards. Budget d'investissement 8 814 millions. On a constaté, je vais parler à lui, il y a le Bénin. PIB du Bénin, c'est 4 519 milliards. Et le 519 millions. Et le budget de fonctionnement de la Bénin, c'est 2 519 millions. 2 519 millions. Mayo Louti, budget d'investissement, 1
million.
It's very difficult to read it in French because the rules are confusing me. 1 070 millions. Et budget d'investissement, 1 179 millions. Maintenant, le Mayo Ray, budget d'investissement public, 1 867 millions et budget de fonctionnement 1 213 millions. Quand on regarde l'évolution entre 2021 et 2022, on constate une légère diminution du budget d'investissement de la région du Nord. C'est ce dû au fait que les grands projets infrastructurels pour la CAN sont déjà achevés. C'est pour ça que le budget d'investissement a réussi une légère diminution. Mais si on regarde les statistiques globales, la région du Nord se retrouve en bonne position parce que l'investissement qui va être exécuté dans la région du Nord dépasse des autres régions. Maintenant, les principales innovations de la circulaire 2022. Le format de la circulaire. On avait réformé la circulaire en 2020, on a changé le format de la circulaire. Maintenant, on a séparé les éléments de procédure qui sont stables et les éléments de politique qui découlent de la loi des finances qui sont instables. Parce qu'à chaque année, on va faire la circulaire pour la loi des finances en question, mais les procédures sont stables. C'est pour ça qu'on a enlevé les éléments de procédure des éléments de politique. Donc, mais pour cette année, l'innovation, c'est que on a fait maintenant un autre manuel pour les procédures de CTD. Donc, en ce qui concerne les annexes de la circulaire, le tome orange, c'est pour les procédures de l'État et les établissements publics, alors que le tome bleu, c'est pour les CTD. Donc, les ordinateurs, il ne faut pas faire la confusion. Quand vous êtes dans le CTD, il faut utiliser le tome E, parce que c'est uniquement les procédures de la CTD, parce qu'on a constaté que vous éprouvez des difficultés pour faire appliquer nos procédures en centrale. Donc, on a subi vos doléances, on a essayé de faire la part des choses pour être cohérent, parce qu'on a nos soucis, on veut que vous éditez vos soucis bien, comme ça se passe dans d'autres entités publiques. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un manuel de procédures qui répond aux problèmes réels de CTD. Donc, ce manuel de procédures, le manuel de procédures de l'État, c'est le même parti, les manuels ont la même structuration avec un rappel du cadre général, et les différentes fiches pratiques. Maintenant, pour les CTD, on a essayé de mettre focus sur les acteurs parce que c'est nouveau chez vous, c'est nouveau. Donc, on a expliqué le rôle de chaque acteur pour éviter l'amalgame ou pour éviter l'accumulation des tâches. Chaque acteur connaît, s'il entre dans le manuel, il va voir ce qu'il doit faire. Et s'il fait ça, l'objectif sera bien exécuté. Les mesures de politique budgétaire, optimisation des recrutements des recettes de services. On a constaté, c'est un problème, qu'il y a la non-maîtrise des recettes de services existants et aussi l'absence de remonter l'information budgétaire sur les recettes de services. Donc, on a refait la procédure parce qu'on a le souci d'optimiser ce secteur. On est sûr que le potentiel de recouvrement des recettes de services fait augmenter ce que nous on recouvre actuellement. Donc, si on définit la procédure, ça va, le recouvrement sera facile. Donc, on va commencer. Quand on crée une recette qui est créée par une loi de finances, le ministre des Finances va signer une décision qui met en place le régime des recettes. Après, maintenant, le même acte va désigner il y aura un autre acte qui va désigner le régisseur. Ce régisseur doit maintenant être la liste, il doit avoir une liste des régis de recettes qui doit être actualisée chaque année. Et le régisseur doit, chaque régis de recettes doit être rattaché à un poste comptable assigné pour éviter la déperdition des recettes des recettes de services. Et les recettes recouvrées à version spontanée doivent être régularisées parce qu'il y a certaines recettes qu'on ne peut pas suivre la procédure d'exécution des recettes. Donc, dès qu'on constate, on paie. Mais il faut qu'on régularise. Donc, l'obligation de régulariser incombe à l'ordonnateur après le visa du contrôleur financier parce que le contrôleur financier doit viser les émissions. Mais tous ces régimes doivent être rattachés. Le recouvrement est fait uniquement par la direction générale du Trésor. Donc, il faut régulariser les recettes à versement spontané pour assurer le suivi de l'optimisation des recettes de services. Assainissement continue de fichiers solde. On continue à payer les salaires pour les agents décédés. Et parfois même, certains avantages sont payés indûment à certains agents publics qui ont déjà perdu ses postes de responsabilité. Quelqu'un est sous-directeur, il est délégué régional, il n'est plus délégué régional, mais il continue à prendre le prix de suggestions comme délégué régional ou comme sous-directeur. Donc, l'assainissement du fichier sur c'est une activité permanente qui doit être assurée par les services du CGPN des différents ministères et aussi la brigade de contrôle de la solde et de la pension au sein du ministère des Finances. Donc, chaque ordonnateur a l'obligation à transmettre l'information sur le décès d'un agent, information personnelle sur le décès d'un agent auprès du service du personnel qui doit assurer que le salaire de cet agent soit suspendu. Il ne faut pas cacher l'information parce qu'il y a déjà les cadres magnétiques. Donc, même si quelqu'un ne se retrouve, ne vient pas à la banque, au guichet de la banque, il peut prendre ça dans les machines ATM à côté de la route. Donc, c'est important d'envoyer l'information en temps réel pour qu'on puisse suspendre ce salaire. Et aussi la rationalisation des dépenses liées au bout des stages. On a constaté plusieurs problèmes. La procédure n'a pas, ce qu'on avait proposé l'année passée, en 2021, n'a pas porté le fruit escompté. On constate qu'il y a un grand volume des MPI, des bourses aux étudiants étrangers. Donc, c'est important que pour cette année, les frais de scolarité seront engagés par le ministère bénéficiaire. Si le ministre des Finances envoie ses collaborateurs étudiants à l'étranger, c'est lui qui doit supporter les frais. Donc, ce n'est pas que vous êtes au ministère de l'enseignement supérieur, vous envoyez les élèves à l'étranger pour faire la formation, et c'est le ministre des Finances qui doit supporter les frais. Les frais doivent être engagés et payés directement dans le compte de l'école. Et les frais connexes, qui sont les frais des subsistances, doivent être engagés. Et le comptable public assignataire doit virer ça dans le compte de l'étudiant. Donc, pour dire que tous les étudiants camerounais boursiers doivent ouvrir un compte au Cameroun. Parce que ce sera facile pour que le comptable public assignataire vire la somme dans le compte qui est domicilié ici au Cameroun, que de virer ça via le PCT de l'ambassade et on n'arrive pas à retrouver la traçabilité des fonds virés. La gestion des subventions de l'État. Certaines universités, je prends l'exemple des universités, ils créent les nouveaux projets. Une fois que les projets sont créés, c'est le ministre des Finances qui doit envoyer les frais de fonctionnement. Si une université décide de créer un projet ou un programme dans n'importe quelle localité, ce programme, le fonctionnement de ce programme doit être supporté par le budget de la dite université. Ce n'est pas le ministre des Finances qui va chercher l'argent pour faire fonctionner le projet, parce que c'est les universités qui décident de créer les différents programmes. Les mesures de politique budgétaire, c'est une gestion de la dette publique. On a un problème de la non-maîtrise de la dette publique. En 2020, il y a un audit qui va se passer de manière effective en 2022 qui concerne les dettes commerciales flottantes de 2020, de 2000 jusqu'en 2020. Donc, on doit comprendre, maîtriser ces dettes pour proposer un plan d'apurement. Ça veut dire que les entités publiques, l'État central doit éviter d'exécuter leur budget, de telle sorte qu'il va envoyer, résoudre à l'accumulation de la dette. Il faut éviter. Et même s'il y a la dette, les impayés, par exemple, les impayés de 2021, il faut mettre des lignes dans vos budgets pour prendre en charge ces dépenses dans vos budgets en 2022. Parce que ces dépenses, dans beaucoup de cas, ça revient à Yaoundé pour paiement. Parce que ceux qui n'ont pas réussi à faire cantonner les crédits dans les lignes au 31 décembre, ils envoient à Yaoundé. Et quand ça arrive là, on ne sait pas comment on va faire. Parce que ces structures ont les budgets autonomes. Ce n'est pas le budget du chapitre 20 qui doit payer les charges qui ont été contractées ailleurs. Donc il faut trouver le moyen d'éviter l'accumulation des dettes. Et toutes les dépenses non payées, on doit prévoir les lignes pour que ces dépenses soient prises en charge en 2022. La constitution du bilan de vertu de l'État. On a fait la mise en place de la comptabilité patrimoniale qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Pour ce faire, il y aura le recensement de tous les immeubles bâtis et non bâtis et du matériel roulant acquis avant 2022. Et dans nos dispositifs, la plateforme promise, il y a une fiche des immobilisations, ça concerne les techniciens qui travaillent dans l'application promise. Que au moment que vous êtes assuré en train de faire la liquidation, il faut vous renseigner la fiche des immobilisations. Il faut renseigner quand vous voulez, promise est déjà paramétrée. Quand vous voulez faire la liquidation, il faut remplir maintenant les fiches des immobilisations pour permettre que la direction générale du trésor puisse avoir l'information en temps réel pour faire la comptabilité patrimoniale. Nomenclature budgétaire de l'État. Je disais tantôt qu'on a préparé le budget avec la nomenclature 2019, donc il y a plus 2003. Donc pendant que vous allez voir même dans le carton, les imputations ont changé. Ça a changé, surtout la nomenclature, surtout la nature économique qui correspond au plan comptable de l'État. Parce qu'on a essayé d'aligner les comptes budgétaires au compte du trésor. Donc, vous allez voir dans l'exécution, je prends un exemple, si vous êtes habitué à payer l'achat des finitures et petits entretiens de bureau, dans la nomenclature 2003, maintenant vous allez voir que c'est 36-01-40. Donc au lieu de 4 chiffres, maintenant la nomenclature, la nature économique, c'est 6 chiffres. Parce qu'on a le tigre qui a un chiffre, on a la tigre qui a deux chiffres, on a le paragraphe qui a un chiffre, et on a le rubrique qui a deux chiffres. Donc c'est ça qui donne, on est de 61-01, c'est, vous allez voir, 36-01-40. Donc ça, c'est la nomenclature budgétaire de 2019, c'est la réforme. Donc c'est la même chose. Je prends de manière concrète, on se vise de concentrer pour l'arrimage à la nomenclature budgétaire 2019. Si on est en 2003, on a, je prends l'exemple du secteur de l'éducation, on a l'année 55, 2019, c'est l'année 56, 2022. On a le chapitre 15 minutes, toujours 15 minutes. Le programme qui est d'universalisation du cycle primaire était en 2023, le code était 197. Maintenant, avec la nomenclature 2019, c'est 102. Action, c'est 01, c'est la même chose, 01. Et actif, soit 44, 15, 150, délégation régionale de l'éducation de base. Ça n'a pas changé, la même chose. Mais le paragraphe maintenant, qui est la nature économique, c'est ça qui a changé. Au lieu de l'achat de matériel informatique et bureautique, qui était avec le code 61-0D, maintenant c'est 36-01-50, achat de matériel courant informatique et bureautique. Et section, c'est 423, qui n'a pas changé. Donc vous allez voir que c'est la nomenclature qui a changé, parce qu'on veut s'arrimer à la réforme des nomenclatures budgétaires de 2019. Donc l'imputation maintenant, qui était à 24 chiffres, maintenant l'imputation c'est 25 chiffres. Maintenant, des matériels de poursuite d'engagement des dépenses. Pour éviter la fraude, pour éviter la signature, pour sécuriser les documents budgétaires, pour aller vers la gestion de l'économie des documents, on a réformé la procédure des dépenses au niveau central. Je dis bien, pour le compte de 2022, c'est uniquement au niveau central. Au niveau central, les documents ci-après seront générés dans Promis. La fiche d'expression des besoins, le bon de commande administratif, la décision de blocage des fonds, l'ordre de mission et bon d'engagement, ça veut dire qu'on ne remplira plus le bon d'engagement sous format pré-imprimé. On va éditer, on va saisir les éléments dans les cases paramétrées dans l'application Promis et on va éditer et signer. Pour l'administration centrale, les ministères, les services déconcentrés, vous allez exécuter votre budget, vous allez remplir le bon des carnets de bon de commandes, vous allez remplir, vous allez faire la décision hors système Promis. Mais pour la réforme, on a commencé parce que la réforme part à petit pas. Donc on ne peut pas embrasser tout, la réforme au volet national. Pour 2022, ça manque les services centraux. Les procédures et modalités de réforme du budget, déclinaison des procédures et modalités de gestion du budget de CTD. Je vous ai dit, parlé tantôt, qu'il y a un manuel. C'est un manuel très, très riche. Les acteurs de gestion du budget de CTD, les contrôleurs financiers, les comptables publics, les TPG, il faut prendre connaissance de ces documents parce que ça sera bénéfique pour votre réussite. Maintenant, je sais pour vous rappeler les dates clés de l'exécution du budget. Tous les budgets sont exécutoires à partir du 1er janvier 2022. Le 20 janvier, c'est la date butoir de l'élaboration d'un plan d'engagement des dépenses budgétaires. Parce que pour le compte de 2022, le contrôleur financier doit donner un avis de soutenabilité sur le plan d'engagement. Donc, il faut élaborer le plan d'engagement pour permettre qu'un plan qui sera adossé au plan de trésorerie, pour permettre qu'une fois qu'une dépense est prévue pour être exécutée, il y aura la trésorerie disponible au moment que ça va arriver pour le paiement. Et le 15 octobre, c'est la date d'arrêt des visas sur les projets du marché. Mais c'est quelque chose que je suis en train de dire, si, parce qu'il n'y a pas une disposition qui dit que le 14 novembre ou le 15 même, avant 15h30, un contrôleur financier ne peut pas viser un marché que le délai d'exécution est 6 mois. Alors que nous-mêmes, on a dit que le 31 décembre, on doit ordonnancer pour les marchés annuels. On a fait l'exception qu'on peut viser les marchés pluriannuels et les marchés de fourniture, que le délai d'exécution ne dépasse pas un mois. Mais quand on vise un marché, le 15 à 11 et le 15 novembre, délai d'exécution, délai d'exécution 6 mois, c'est pour dire à la personne que tu as jusqu'à mars pour venir pour qu'on va payer. Ça pose un problème. Ça pose un problème. C'est un problème qu'on va regarder en interne, on va trouver la juste mesure. Et à novembre, on a fait l'arrêt des engagements cette fois en 2021, c'est le 15 novembre. Et le 15 novembre 2022 sera la date d'arrêt des engagements. Et le 31 décembre, ce sera la date d'arrêt des ordonnancements. Et le 31 janvier sera la prérogative complémentaire comptable qui n'est pas budgétaire. Pour nous, les budgétaires, on arrête le travail pour le budget de l'année M-1 au 31 décembre. Maintenant, en conclusion, le budget 2022 est déjà exécuté et son exécution fera face à des multiples contraintes. Pour s'asseoir sur l'exécution, il est important que les différents acteurs soient stricts sur le respect des disciplines budgétaires, respect des dispositions législatives et réglementaires, s'approprient des différents outils mis à leur disposition pour une exécution harmonieuse des budgets publics. Je vais en résumer, je vais dire, on a dit beaucoup de choses ici. Si on ne respecte pas les délais d'exécution, si on ne respecte pas les procédures éditées, si on ne respecte pas la discipline budgétaire, c'est capital. Si on ne respecte pas, on va droit à l'échec. Je vous remercie.